Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Lors de ma première diagonale, j'avais été émerveillé par les beautés du pays, mais également j'avais été très attristé par l'état du pays, au moins pendant les deux premiers tiers du parcours.
RTL.
Je voulais voir la France sous un autre aspect. Toujours ses beautés, mais peut-être également d'autres populations dans d'autres territoires, c'est ce que j'ai fait.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nous sommes donc avec Axel Kahn, bonsoir.
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 Bienvenue, vous êtes, je le rappelle, généticien, médecin et donc marcheur. Vous avez traversé la France deux fois en diagonale. La première en 2013, de la frontière ardennaise jusqu'à celle de l'Espagne. Et puis donc il y a un an, printemps 2014, votre trajet, vous nous le rappelez ?
Je suis parti le 8 mai. Depuis la pointe du Raz, c'est vraiment l'extrémité la plus à l'ouest de la France continentale. Mmh. Et je suis allé là où se rencontrent l'Italie, les Alpes et la mer Méditerranée. Je ne pouvais pas aller au-delà, ou alors je quittais le pays, c'est-à-dire Menton.
Donc ça fait en chiffres, ça fait combien de kilomètres, ça fait alors, combien de jours?
Oh, c'est pas en ligne droite. En ligne droite, ça ferait 1500, 1600 kilomètres. Mais le marcheur va rarement en ligne droite. Et en fait, mon appareil GPS, qui est très précis, m'a indiqué que j'avais fait 2051 kilomètres et surtout un dénivelé cumulé qui est pas triste.
Pourquoi cette diagonale, Axel Kahn? Pourquoi vous avez choisi cet itinéraire? Vous l'avez tracé au hasard?
Non, du tout. L'itinéraire de 2013 avait été du nord-est au sud-ouest. Avant d'arriver à l'extrême sud-ouest, c'est-à-dire au Pays Basque, je me suis demandé qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après. Et le moins saut de toutes les possibilités m'est apparu de faire la même chose. D'abord parce que j'avais adoré, parce que j'étais très en forme, parce que la beauté dont la quête était l'objectif initial de cela, je l'avais évidemment rencontré. J'avais ressenti des espèces d'extase, voire une impression de sublime. Et puis j'avais commencé à faire des analyses du pays, mais sur une France particulière, notamment, comme je l'ai dit dans les extraits que vous avez passés, dans les deux tiers du nord-est au centre-ouest aveyronnais, une France qui, lorsqu'elle avait été industrialisée, est aujourd'hui essentiellement ravagée et très loin de commencer à se redresser. Et donc, évidemment, le diagnostic que j'avais porté, les hypothèses que j'avais formulées, devaient être confrontées à une nouvelle réalité. Et en allant de l'ouest jusqu'au sud-est, c'est une toute autre réalité de population et une toute autre réalité également économique que j'ai rencontrée.
Et ces rencontres, vous les racontez dans un livre, Entre deux mers, voyage au bout de soi, qui est publié chez Stock. Vous décrivez une France un peu moins pessimiste, c'est ça ?
C'est-à-dire que la France est un peu moins pessimiste parce que, d'une part, dans la partie la plus ouest, qui est économiquement la plus développée, avec évidemment l'arrière-pays niçois, qui bénéficie à plein du boom de l'immobilier, le boom touristique et même le boom technologique de la région. Mais dans le Grand Ouest, vous savez, aussi bien en Bretagne que dans la grande Vendée historique, la région de Cholet, le Choletais, les chômeurs aujourd'hui, c'est trop élevé naturellement, mais varie entre 8% dans le Choletais et 9% en Bretagne, alors que vous l'avez dit dans vos informations plusieurs fois, il est à 10,5% au niveau du territoire national, et sur 1500 km en 2013, il était supérieur à 20%. Donc évidemment, la situation était vraiment totalement différente. Par ailleurs, quoique la Bretagne soit en difficulté et en crise aujourd'hui, j'ai vu des populations qui ont un dynamisme extrêmement important, qui ont notamment bien réagi à des crises vraiment fondamentales. Et puis, dans le Choletais, qui est tout à fait particulier, j'ai vu là un territoire pas très grand, mais extrêmement actif, où quand vous marchez, le randonneur va de village en village. Dans chaque village, il y a une usine, il y a une entreprise, elle fait tout, quoi. Elle fait différentes choses. Et puis, il y a
plein de différentes activités, c'est ça ?
Différentes activités. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est de se poser la question pourquoi ? pourquoi il y a des régions qui montrent ce dynamisme et pourquoi il y en a qui vont beaucoup plus mal. Alors, il y a pas mal de raisons, évidemment, mais prenons le Choletais, par exemple. Bien évidemment, pour expliquer ce dynamisme-là, les 8% seulement, si je puis m'exprimer ainsi, de chômeurs, on ne peut pas mettre en avant de richesses naturelles, il n'y en a aucune. On ne peut pas mettre en avant l'antériorité, l'ancienneté d'une position économique, comme par exemple l'industrie aéronautique dans le Grand Sud-Ouest, puisque avant, ils ont fait du lin qui a été balayé, puis ils ont fait du textile qui a été balayé, ils ont fait du cuir et de la chaussure qui a été balayé, et aujourd'hui, je vous ai dit, ils font du câblage pour Thalès, des vêtements pour bébés, différentes choses.
Donc c'est quoi, une capacité des habitants à se remettre en question ?
Alors, l'élément que j'ai avancé, que j'avais commencé à avancer pour expliquer que dans le Sud-Ouest, les choses allaient moins mal quand même qu'auparavant dans mon parcours de 2013, c'est l'importance de la mobilisation en rapport avec un attachement au territoire. Pour deux raisons d'ailleurs. C'est que lorsque la crise économique a frappé, on voit très bien ça en Bretagne, lorsque la crise économique a frappé, ou bien il y a plus longtemps de cela, lorsque, évidemment, l'augmentation de la productivité du travail agricole a amené de nombreux jeunes à ne plus pouvoir travailler sur les fermes, l'attachement très très fort au territoire a amené à ce que tous ceux qui le pouvaient tentent de rester au pays pour créer de nouvelles activités. Par exemple, l'essor de l'agroalimentaire en Bretagne, c'est lié à ça. Le frère de paysan qui ne pouvait plus travailler dans l'exploitation familiale s'est engagé chez le biscuitier, chez le charcutier, l'éleveur, le maraîcher à côté. Ils se sont mis à transformer en partie les produits que faisait le frère rester.
Et toutes les régions ne fonctionnent pas comme ça, Axel Kahn ?
Non, toutes les régions ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des régions qui, historiquement, lorsque l'industrie s'est développée, ont attiré une très très importante population. Prenez par exemple la région de Mulhouse. Quand Mulhouse est rentrée dans la République française vers 1793, il devait y avoir 8000 à 10000 habitants dans la République de Mulhouse. 70 ans après, 50 à 70 ans après, il y en avait 100000 attirés par l'essor du textile. Bien évidemment, la règle, le premier mouvement quand ça commence à aller mal, c'est de partir naturellement. Et on assiste alors dans ces régions-là à un flux et un reflux, et on a des petites cités qui ont perdu les deux tiers des habitants et qui sont en très grande difficulté.
Alors Axel Kahn, cette marche-là à travers la France, cette diagonale, on le comprend, c'est un lieu, un moyen d'observation passionnant de l'état du pays, mais il y a aussi la démarche personnel, ces jours et ces jours, 72 jours, 76 jours si on compte les jours de repos de marche pour traverser la France. Il y a beaucoup de bonheur, il y a des douleurs aussi, on vous les raconte.
Vous écoutez RTL.
Toujours avec vous. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Marchons, nous observons, nous regardons avec le généticien, médecin et marcheur Axel Kahn qui publie « Entre deux mers, voyage au bout de soi » chez Stock. Axel Kahn, voyage au bout de soi, ça veut dire que vous avez enduré des souffrances pendant cette marche. Vous appelez ça comment d'ailleurs, une marche, une randonnée ?
Comme vous voulez, c'est une randonnée en marchant.
Vous avez réponse à tout, c'est bien.
Alors pourquoi la souffrance ?
Alors, voyage au bout de soi, il y a deux raisons. La première, c'est que j'avais annoncé que je voulais aller de la Pointe du Raz à Menton parce que c'était la diagonale inverse de celle que j'ai parcourue en 2013. Je suis un homme logique et assez systématique. Et puis quand j'ai commencé à regarder la carte pour voir le parcours que j'allais suivre, je me suis rendu compte que c'était plus facile à annoncer, à dire qu'à faire, que ça ne serait pas coton. En d'autres termes, les grandes différences par rapport au trajet de 2013, c'est qu'en 2013, direction nord-est-sud-ouest, à partir de Vézelay en tout cas, j'avais suivi des grands chemins de randonnée qui correspondent aux voies jacquaires, aux voies de Saint-Jacques-de-Compostelle, et on sait en tout cas à partir du Puy-en-Velay qu'il y a un énorme succès. Et donc, il s'agit de très bons chemins, c'est des fois un peu fatigant, mais il n'y a rien de difficile. Alors que là, il n'y a aucun chemin balisé.
Vous êtes parti de la Bretagne jusqu'aux rives de la Méditerranée.
Voilà, il n'y a pas de chemin balisé qui fait ça. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de raisons, il n'y a pas de voie de pèlerinage. Alors, on trouve des petits bouts, si vous voulez, de chemin balisé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je ne vais pas parler du massif armoricain, tout de même, ça monte un peu en Bretagne. Mais ensuite, je me suis tapé, si je puis m'exprimer ainsi, depuis le plateau de Mille Vaches, la totalité des plateaux du Cantal, du massif central, de la Haute-Loire, la totalité des montagnes de l'Ardèche. Ensuite, après avoir franchi la vallée du Rhône, j'ai remonté vers les Alpes, par les Drômes, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, puis les Alpes-Maritimes, j'ai longé la frontière italienne. Au total, j'ai fait plus de 43 000 mètres de dénivelé, c'est-à-dire pas très loin de 8 fois le mont Everest. Allez, évidemment, en 72 jours, vous me direz, j'ai pris mon temps. Mais il n'empêche que c'est absolument considérable.
Ça montait, et ça descendait tout le temps. Quoi,
voilà, à la fin, quand j'étais dans les Alpes du Sud très sèches, par exemple, tous les jours, j'ai fait plus, mais tous les jours au moins, je montais de 12 à 1300 mètres et je descendais hors des chemins balisés, c'est-à-dire par des voies instables, des cailloutis invraisemblables, etc. Et c'était compliqué, c'était dangereux, c'était extrêmement néfaste pour la carcasse. Et
alors justement, avec quelles conséquences, Axel Kahn, sur votre corps, sur votre carcasse? Le genou, le dos?
Alors, il y a deux types de conséquences. Il y a une conséquence qui est liée à la mauvaise humeur manifeste de la partie la plus sotte de ma carcasse.
Ah,
vous savez ce que c'est que la partie la plus sotte de ma carcasse?
De votre carcasse ou de la carcasse
non,
des humains?
Non, de ma carcasse à moi.
Dites-nous.
Ce sont mes genoux. Ah. Mes genoux, ils ont commencé à m'engueuler dès la Bretagne. Ah, ils m'ont dit, Axel, tu pousses quand même.
Oui.
Tu nous as fait faire des marathons. Ça fait quasiment 65 ans que tu marches. On en a vu des vertes et des pas mûres avec toi. Et voilà, à l'aube, immédiatement avant tes 70 ans, c'est même un bel âge, tu nous demandes quasiment plus que tu nous as jamais demandé. Alors, leur mauvaise humeur s'est transformée par moments en tentative de grève. Moi, je
vous l'ai pris. Vous les avez ignorés apparemment, vos genoux,
absolument.
Vous avez continué.
Moi, vous savez, j'étais président d'université et j'ai eu des fois des grèves des enseignants-chercheurs, des manifestations des étudiants. Et alors, des fois, on négocie, puis des fois, on négocie pas. Avec les genoux, j'ai dit, je prends la manière forte. Je ne négocierai pas. Vous me porterez jusqu'à la fin.
Et ça marche? Alors,
ça a grincé. Enfin, c'est le cas de le dire, ça marche, mais ça a grincé, quoi.
Voilà, ça a grincé. des fois, ils ont râlé de plus en plus fort. Ils ont hurlé, parfois. Ah. Mais in fine, j'y suis arrivé. Alors, ça, c'est effectivement la carcasse.
Et votre épaule, pardon, je vous interromps, parce que vous vous êtes démis l'épaule aussi.
Ça, c'est autre chose.
Qu'est-ce qui
s'est passé? C'est des accidents.
Ouais.
Comme j'étais sur des chemins pas possibles, il m'est arrivé plusieurs accidents, plusieurs chutes, pour tout dire. Alors, bon, j'étais un peu en sang, égratigné, ça c'est pas grave, tout marcheur a l'habitude de ça, mais je me suis fait une luxation totale de l'épaule. Heureusement, c'était la deuxième fois. Donc j'ai une épaule, si vous voulez, avec une certaine laxité tendineuse, si bien que j'ai pu me remettre de ma luxation moi-même. Je connais la manœuvre,
naturellement,
mais sur soi-même, c'est pas très très facile.
Comment vous
Et puis
fait
je suis retombé sur
pardon,
la même
pardon,
épaule.
Pardon, vous avez trop vite, comment vous avez fait quand on se déboîte l'épaule, on la remet
oui,
en place comment?
Il y a un mouvement effectivement qui est bien connu. Alors, quand vous remettez l'épaule de quelqu'un après l'avoir endormi,
oui.
Vous saisissez le bras, vous mettez ça c'est la chirurgie de guerre. Vous mettez le pied éventuellement dans son aisselle et vous tirez. Moi je peux pas faire ça ou alors.
Et vous étiez tout seul. Ouais.
Ce serait pire que les mouvements du Kama Sutra. Donc ça je ne peux pas.
On est très fort. On a fait plein d'émissions sur le Kama Sutra.
Donc vous avez fait comment? Faut qu'est-ce que vous étiez seul?
J'ai tiré comme ça.
Allez sur RTL.fr.
Et je l'ai relevé et c'est rentré. J'ai entendu. Il y a un déclic douloureux. Cela veut dire que la tête de l'humérus était rentrée dans le cotyle de l'omoplate.
Ça fait mal. Rien que d'y penser, ça fait mal.
Bon,
et votre épaule, vous l'a fait payer aussi?
Alors, et ensuite, mais c'est pas tellement ça. C'est qu'une semaine après, je marchais, figurez-vous, dans un endroit magnifique. Le plateau du Cézallier. D'immenses étendues.
C'est où ça?
C'est à cheval sur le Cantal et sur le Puy-de-Dôme. Mmh. C'est les hauts plateaux vraiment de cet endroit qui est très beau, entre 1100 mètres et 1550 mètres. Il y avait des parterres d'orchistes tachetés. Une splendeur. Les lacs de cratères, les lacs glaciaires. Une splendeur. Mais dans cette ambiance où il n'y a pas d'arbres, il n'y a vraiment pas de forêt, il s'est retrouvé, je ne sais pas qui l'a foutu là, c'était une bêtise, il s'est retrouvé une souche. Comme il n'y avait pas de souche, je ne faisais pas attention. Je me suis pris les pieds dedans, je suis tombé lourdement, emporté par le poids du sac, sur l'épaule qui relevait de blessures. Et là, j'ai vraiment cru m'être cassé la tête de l'humérus. Et puis, j'ai pu me saisir de mon bras droit, c'était le bras droit, l'épaule droite, j'ai pu m'en saisir et le mobiliser, ce qui montrait qu'il n'y avait pas de fracture. Il n'empêche que j'étais totalement incapable de le bouger. C'était une gymnastique, je ne vous raconte pas, pour mettre les lanières de mon sac. Je ne pouvais plus tenir de la main droite mon bâton, non pas de pèlerin, mais de marcheur.
Mais à ces moments-là, vous touchez la limite de votre corps quand même, Axel Kahn. Vous dites, il faut peut-être renoncer. J'ai peut-être...
Oui, absolument. Et si je n'ai pas renoncé, c'est grâce à une aide singulière.
Vous êtes croyant ?
Non, du tout. C'est ma pluche.
Ah, on va en parler.
Voilà, c'est
mascotte.
Ma peluche.
Là, on s'arrête là parce que la princesse mascotte, faut vraiment que vous restiez avec nous pour entendre son histoire. On est bien sur RTL dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
Si vous me voyez là, si gai, si joyeux, c'est qu'en réalité, je suis Axel Kahn et princesse mascotte.
La curiosité est un vilain défaut.
Lorsque j'hésitais à redescendre sur la mer Méditerranée, c'est elle qui m'a dit « Ne sois pas inquiet, je vais rentrer en toi, tu resteras toujours jeune. »
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais qui est cette princesse mascotte dont parle Axel Kahn ?
Le double féerique d'Axel Kahn.
Notre invité ce soir dans la curiosité. Donc, vous embarquez avec vous dans cette diagonale, cette traversée de la France. Un passager qui n'est pas clandestin, puisque vous avez décidé de l'embarquer. C'est qui, princesse mascotte ?
Alors, c'est un poulain alezan, vêtu d'un gilet vert fluo sur lequel il y a marqué Jeux équestres mondiaux Normandie 2014, c'est que j'étais le parrain de ces Jeux équestres mondiaux et que l'on m'avait remis en tant que tel la mascotte.
Donc c'est une peluche.
Voilà, c'est une peluche. Oui. À charge pour moi de m'en servir pour faire la promotion des jeux qui devaient se dérouler quelques mois après.
Parce que vous êtes un passionné d'équitation.
Les gens ont commencé par m'arrêter en disant, écoutez-vous, on voit bien que vous êtes un grand-père qui marche parce que vous avez piqué le doudou à vos petits-enfants. Alors, j'étais extrêmement mécontent
et vexé. C'était votre doudou à vous.
Oui, c'est ça, c'était le vôtre.
Voilà. Et puis, il s'est passé quelque chose très rapidement. Le jour du départ, le 8 mai, de la Pointe du Raï, il faisait un temps de chien d'ailleurs ce jour-là, au bout de à peine 5 kilomètres, je me suis arrêté brusquement, saisi d'une impression d'horreur, en me disant, mais quand même, ce que j'ai dans le dos là, la peluche, c'est un petit poulain, c'est un petit mec quoi. Or moi, dans la vie, je préfère de loin son côté féminin. Et l'idée de me balader avec un petit mec pendant 3 mois... m'est devenu immédiatement insupportable.
Vous avez
donc,
changé
comme je suis généticien, j'ai fait une transmutation transgenre et je lui ai dit, tu n'es plus Normand, c'était son nom, tu es princesse mascotte, ma princesse. Et en réalité, c'était quand je suis parti des Ardennes, avec le souvenir d'Arthur Rimbaud qui a dit « je est un autre », j'avais annoncé « je vais marcher avec ce je qui est un autre ». Eh bien, en 2014, ce je qui en est un autre, c'était princesse mascotte. Mais
c'est
différemment.
Quoi, un double féminin en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, différemment. C'est-à-dire qu'on s'était partagé le boulot. Il y avait d'abord Axel, le presque déjà vieux bonhomme, bientôt vieux bonhomme.
Bon, bah, vous rigolez, voilà. qui fait 2000 et quelques kilomètres dont la carcasse, en 70 jours.
Dont la carcasse protestait et qui, par moments, a été un peu en difficulté. Il s'est demandé, presque jusqu'à la fin, s'il arriverait au bout de l'aventure. Mm-hmm. Et puis, il y avait moi toujours, mais moi princesse, moi toujours jeune, moi toujours belle, moi toujours optimiste, moi qui n'attendais pratiquement du lendemain jamais les difficultés, mais les eaux cristallines, mais les crépuscules de gloire, les soirs qui s'embrasent. Voilà ce qu'était princesse mascotte. Et pour parler, parce qu'on en parlait tout à l'heure, elle m'a sauvé la mise lorsque, effectivement, j'étais extrêmement découragé, avec mon épaule démolie. En plus, ce soir même, j'étais tombé sur des gravillons et j'étais vraiment totalement en sang.
Ça veut dire, Axel Kahn, qu'on ne peut pas être seul, on ne peut pas marcher vraiment seul, finalement.
On peut, mais avec ce jeu qui en est un autre, quand ça assure peut-être son côté féminin, je ne sais pas. C'est beaucoup mieux. Parce que dans le gîte auberge, dans le plateau du Césalier, j'étais avec mon épaule extrêmement douloureuse. J'étais pas à la moitié du chemin. J'étais déjà avec des genoux qui n'en pouvaient plus. Je ne savais pas s'ils me porteraient jusqu'au bout. Et par conséquent, j'avais eu ces deux accidents successifs sur l'épaule. Et je m'étais dit, bon voilà, je vais pas y arriver, quoi. Comme tous les soirs, j'avais dégrafé Princesse Mascotte. Je l'avais mis sur la commode en face de moi. Moi, j'étais allongé sur le lit après ma petite lessive de la main gauche et ma petite toilette toujours de la main gauche. Je ne pouvais pas me servir de la main droite. Et j'ai eu l'impression que Princesse Mascotte m'interpellait. Je te vois filer un mauvais coton, là, Axel.
Vous aviez
comment
pris
un mauvais coton ?
Vous aviez pris beaucoup de médicaments ou...
Ouais, tu es découragé, tu vas abandonner. Mais tu peux pas faire ça, Axel. Tu peux pas faire ça. Je te rappelle, tu es moi, je suis toi et moi. Regarde-moi. Moi, j'ai pas mal. Moi, je suis pas fatigué. Moi, je suis pas découragé.
Non, mais...
Écoute, Axel. Tu ne peux
je
pas.
Vous écoute.
Tu ne peux pas m'abandonner. Car si tu m'abandonnes, tu t'abandonnes. Ne m'abandonne pas, ne me quitte pas, ne te quitte pas. Et là, une demi-heure après. Totalement revigoré, je suis descendu, j'ai demandé au bar du gîte auberge où j'étais deux gentianes, bien glacées, je me les suis enfilées coup sur coup, et le lendemain c'était reparti pour la deuxième moitié de l'aventure. Donc Princesse Mascotte, voyez quand même.
Elle est toujours avec vous, elle partage toujours votre quotidien, que c'est le cas de Princesse Mascotte, ou c'est que en cas de coup dur?
Non, Princesse Mascotte, tout à l'heure vous avez indiqué ce qu'il en était, elle a joué un deuxième rôle très très important lorsque j'étais désespéré. À l'idée de redescendre sur la Méditerranée. J'étais à 1400 mètres.
C'est-à-dire de finir votre voyage.
Finir le voyage. Vous savez, ce qui se passe, c'est que là, si vous connaissez un peu la géographie, les Alpes s'arrêtent brutalement et elles tombent vraiment d'un coup sec dans la mer.
C'est le grand plongeon.
Et c'est le grand plongeon. Il est compliqué, il est difficile. C'est vraiment la fin. Et vous la voyez, elle est matérialisée, la fin du voyage. Et quand vous avez 70 ans, vous établissez un rapport entre la fin de ce voyage géographique et également la période avancée sur le trajet de votre vie. Et lui aussi, à un moment donné, il tombera d'un coup sec, brutal, vers la fin de cet itinéraire de l'existence. Et donc, j'étais pas très bien. Et l'idée de redescendre pour retrouver le vieux bonhomme de 70 ans dont j'ai parlé ne me plaisait pas. Et puis, l'orage s'est mis de la partie. Et là, Princesse Mascotte s'est vraiment interpellée. Elle m'a dit, Axel, il va peut-être bien falloir que tu descendes quand même. Tu as peur, et quand tu seras rentré chez toi, je vois bien, tu vas me poser sur la commode, je serai redevenu un jouet en peluche. Mais j'aurais disparu, c'est vrai, mais où aurais-je disparu? Tu le sais bien, en toi, je t'aurais réintégré. Moi, belle, jeune, optimiste, qui croit au lendemain qui chante, je serai avec toi, je serai en toi, je serai toi. Ben je ne te génial. Quitterai pas, et alors je suis descendu.
C'est génial, elle est avec vous pour toujours. Alors il y a eu des rencontres magnifiques, on en parlera longuement tout à l'heure, et puis il y a eu des sites magnifiques, Axel Kahn.
Ah oui,
vous en avez décrit là rapidement quelques-uns. On va redémarrer au tout premier, le Cap Sizun, c'est le point de départ, c'est dans le Finistère, c'est ça?
Voilà, le Cap Sizun, c'est le cap qui se termine par la pointe du rat. Mmh. Alors, vous savez pourquoi on l'appelle la pointe du rat?
Non.
Parce qu'elle est au ras du sein. Alors, ça n'a rien de sexuel. Je parlais du Kama Sutra et je parle du rat du sein, mais c'est pas du tout que je suis obsédé.
Chacun
c'est l'île de sein.
Hein. Ah, d'accord. Ok, très bien.
Donc, voilà, au ras du sein, il y a la pointe du rat. Et ensuite, surtout la rive nord, la côte nord du Cap Sizun qui va vers la baie de Douarnenez, vers Douarnenez, et d'une extraordinaire beauté. Au milieu de ce parcours, vous croisez la presqu'île de Crozon, et c'est vraiment fantastique. Il y a une végétation tout à fait particulière. Il y a évidemment les genêts, les ajoncs. Il y a les armérias maritimes également qui sont là absolument partout. En permanence, il y a ce bruit incroyable, le bruit des vagues, les rires et les criaillements des oiseaux de mer multiples, le vent extrêmement fort également. Il y a cette roche tout à fait extraordinaire avec les mouettes, les cormorans, les goélands, d'autres oiseaux aussi. Il y a cette coexistence par conséquent de cette dureté granitique avec un lichen des fois un peu noirâtre, mais de cet embrasement des genêts et des ajoncs. C'est comme si l'or éclatait et tombait sur la Bretagne. Honnêtement, c'est magnifique.
Dans un instant, vous allez nous emmener dans le massif central, sur le mont Gerbier de Jonc. Vous êtes d'accord?
Oui,
Axel Kahn,
absolument.
Vous venez avec Princesse Mascotte, bien sûr.
Oui.
D'ailleurs,
il y a une photo de Princesse Mascotte au sommet du Gerbier de Jonc.
Vous écoutez RTL.
Nous sommes sur les routes de France avec le généticien, médecin et marcheur Axel Kahn. On visite avec vous cette France que vous découvrez en prenant le temps, en regardant, en l'écoutant. Vous voyagez seul. enfin pas tout à fait, parce que vous avez votre double féerie qui est la princesse mascotte, un ancien cheval. Enfin, si vous voulez connaître toute l'histoire, vous allez sur RTL.fr et vous podcastez l'émission après l'émission, c'est comme ça. Vous vouliez nous faire découvrir dans le Massif Central le mont Gerbier de Jonc. Pourquoi c'est un endroit important pour vous ?
L'une des plus grandes frustrations de ma vie est de n'avoir jamais pu toucher avant 70 ans les connaissances que l'on emmène avec soi quand on quitte l'école. Il y en a deux. Le reste, on oublie en général. Mais les deux connaissances qu'on garde, c'est Marignan 1515, la bataille de Marignan 1515, et deuxièmement, la Loire prend sa source au pied du mont Gerbier de Jonc. Or, moi, je suis né en Touraine, les pays de Loire. J'avais franchi l'estuaire de la Loire, je connais bien la Loire. Figurez-vous que je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait le mont Gerbier de Jonc, et que bébé Loire, je ne l'avais pas vu. Et je désespérais. Eh bien, là, toute mon énergie, toute ma foi, tout mon enthousiasme était bandé dans cette idée de voir bébé Loire au pied du mont Gerbier
et
de
alors
Jonc. Le mont Gerbier de Jonc, il est mieux encore que vous ne pouvez l'imaginer.
Décrivez-le.
Et même si j'ai du talent, je vais vous le décrire.
Ah oui.
Mais c'est mieux que je ne pourrais le dire. Imaginez, dans un immense cirque glaciaire, qui est le cirque glaciaire des Boutières, en face du mont Mézinc, le géant à 1756 mètres, il y a là une claire mamelle juvénile, extrêmement régulière. J'avais l'impression d'un corps attirant, en tout cas de l'un de ses seins, zébré d'une végétation rase, d'une régularité parfaite dans un ciel totalement lumineux, une rocaille importante. Et quand on monte au mont Gerbier de Jonc, on fait corps naturellement avec lui, on palpite avec lui, on a cette référence. Et puis au sommet du mont Gerbier de Jonc, il y a ce paysage immense, il y a vers la Haute-Loire le mont Mézinc, il y a ce grand cirque glaciaire, il y a de l'autre côté vers la vallée du Rhône, les monts de l'Ardèche. Lorsqu'il fait beau, vous pouvez voir jusqu'au Mont Blanc au petit matin, c'est magnifique. Et puis il y a bébé Loire. Alors, il y a un attrape-couillon, c'est-à-dire que au pied du mont Gerbier de Jonc, il y a tout plein d'établissements qui annoncent la seule source de la Loire, l'unique source de la Loire, la véridique source de la Loire, la vraie source de la Loire. Il y en a 15 comme ça. Il ne faut pas y aller, parce qu'en réalité, il y a tout plein de petits filets d'eau qui coulent du mont Gerbier de Jonc. Et ce qu'il faut faire, c'est passer par-dessus des barrières de propriété privée. Je l'ai fait, ça ne m'a jamais arrêté, une propriété privée, bien évidemment. Et là, en contrebas du mont Gerbier de Jonc, vous voyez un spectacle absolument inouï. Dans le soleil couchant, entre des petits rochers, avec des éclairs d'argent qui scintillent à ce soleil, rasant déjà, sous la surveillance tutélaire de cette mer à la poitrine magnifique, le mont Gerbier de Jonc, bébé Loire, tel qu'en lui-même, en l'ange et vagissant. C'est beau, mais c'est beau.
Mais c'est magnifique,
Axel
Kahn.
Quand vous voyagez comme ça et que vous marchez, Axel Kahn, est-ce que vous écrivez, vous prenez des photos? Là, vos paroles sont absolument magnifiques, on dirait des poèmes, vous les écrivez ces mots, ou alors vous les retenez?
Je les ressens comme cela.
Ouais.
Vous savez, vous avez appris, j'ai été médecin, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été médecin-chef d'une préfecture en Afrique, j'ai fait de la cancérologie, de la réanimation. J'ai vraiment habitué à être confronté au pire des douleurs, au pire des dégâts, au pire des maladies, à la mort aussi. Et donc, je me suis endurci. Mais il y a une émotion vis-à-vis de laquelle je ne me suis jamais endurci. La beauté extrême me fait pleurer comme une madeleine. Je fonds en larmes. Voilà. Et notamment, bien entendu, lorsque je contemplais ce spectacle idyllique d'une maternité superbe, bébé Loire venant de naître avec encore sa génitrice là dans sa splendeur du postpartum, que voulez-vous, je pleurais naturellement. Que pouvais-je faire sinon être heureux et pleurer?
Voilà le Massif Central qui peut provoquer ça. Ça donne envie de partir en vacances là-bas ou en week-end tout de suite. Alors il y a les sites magnifiques que vous venez de nous décrire, Axel Kahn, et puis il y a les gens quand même. Hein. Cette diagonale d'ouest en est, elle vous a permis de rencontrer des gens. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas croyant, mais vous êtes allé à la rencontre des moines dans une abbaye qui est à Trimadoc, c'est ça?
À Trimadoc.
Ça, c'était au début du voyage.
Absolument.
Aussi en Bretagne. Mais pourquoi eux?
C'est Rouen. C'est près de la ville de Rouen, parce que c'est dans le Morbihan.
Oui. Mais c'est eux qui vous contactent ou c'est vous qui allez
vers eux? C'est eux qui m'ont contacté.
Oui.
Les moines de Trimadoc, ce sont des moines cisterciens. Vous connaissez naturellement la réforme cistercienne des dominicains au tout début du XIe siècle. Là, c'est pas une abbaye du XIe siècle, c'est une abbaye du XIXe siècle, mais c'est même des cisterciens. Et c'est une abbaye relativement importante, car la communauté de Timadoc doit réunir 18 moines sous la responsabilité d'un père supérieur. Et il m'avait proposé de venir dormir, passer une nuit chez eux, de suivre tous les offices, chanter, si je le désirais naturellement, et de me prêter à une discussion, un dialogue avec eux. Donc ce que j'ai fait, j'ai discuté avec le père abbé, j'ai discuté avec plusieurs moines, et très souvent, je vois ça aussi bien chez les religieuses, chez les moniales, que chez les moines, ce sont des communautés souvent qui ont une très grande curiosité intellectuelle et une très grande largeur d'esprit. Comme si l'authenticité de leur foi, leur, intimité avec l'image qu'ils ont de Dieu, je dis cela parce que moi-même, je n'ai pas la chance d'être croyant, que voulez-vous, les amenait à relativiser certains interdits absolus. Et en particulier, on a parlé de génétique, on a parlé des nouvelles formes de mariage et de famille, on a parlé... Alors ça, c'est étonnant, parce que bien évidemment, la Bretagne a envoyé en particulier de gros bataillons aux grandes manifestations qui s'opposaient au mariage entre personnes de même sexe. Eux, honnêtement, ils m'en ont parlé spontanément. On peut pas dire qu'ils étaient pour, ils ne préconisent pas que l'Église se mette à marier les gens de même sexe. Mais ils considéraient que ça les regardait pas trop. Et puis, ils m'ont posé des questions sur d'autres sujets, et très généralement, ces communautés-là, qui vivent intensément leur foi, ça les amène à une très grande largeur de vue.
Plus que certains catholiques,
oui,
pratiquants.
Absolument, ça c'est clair.
Qui peut-être sont moins sûrs de leur foi et qui du coup...
Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont moins sûrs de leur foi, ou bien parce qu'il y a la confusion assez souvent, et on l'a vu notamment dans les derniers événements, entre la force d'un engagement religieux qui est sincère, et puis un engagement politique. Et on a vu quelque chose qui était assez singulier, si vous voulez, en 2012-2013, c'est-à-dire la reconstitution de ce qui ne s'était pas manifesté depuis très longtemps, à vrai dire, qui est comme, pour une partie des catholiques, comme un parti catholique de droite. Mmh. Donc c'était très singulier. Donc évidemment, il est typique du fait de cet engagement, et on ne voit pas du tout l'équivalent chez la plupart des communautés religieuses.
Mmh. Axel Kahn, tous les jours, vous rencontriez des gens où il y avait des phases, des plages de grande solitude?
Alors, de toute façon, je marchais seul.
Oui.
À part jusqu'à Douarnenez, sur le chemin côtier du Cap Sizun, dont j'ai vanté la beauté. Et encore très peu, deux marcheurs. La dernière étape, depuis Sospel jusqu'à Menton, qui se faisait sur un bon GR que j'avais déjà parcouru d'ailleurs dans le temps, le GR52, je n'ai pas vu un seul marcheur. Sur 2000 kilomètres, j'ai pas vu un seul marcheur. Et comme j'étais hors des chemins balisés, sur des chemins incertains, où je me suis perdu plusieurs fois, il m'est arrivé des aventures pas possibles. Bien entendu, je voyais personne. Et même quand j'étais sur des petits bouts de chemin, seuls sont parcourus. On a l'impression parfois que la France entière s'est mise à marcher, mais c'est une illusion. Il y a les chemins de pèlerinage, notamment de Compostelle, qui sont effectivement très populaires, et puis quelques chemins de grande randonnée, le GR Corse, etc., qui sont également très très populaires. Autrement, il n'y a pas plus de marcheurs en France qu'il y en avait quand j'avais 20 ans. Hein.
Ouais. Alors, parmi les rencontres, il y a les patous. Vous savez pas ce que c'est qu'un patou? Ben, on va vous le dire dans un instant.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Voyage, voyage.
C'est une traversée de la France que l'on vous propose sur RTL grâce à notre invité Axel Kahn, qui a parcouru le pays d'ouest en est, de Bretagne jusqu'en Méditerranée, il y a un an, au printemps 2014. Les patous, vous les avez rencontrés plutôt vers le dernier tiers du voyage, c'est ça?
Alors
c'est
le quoi? Le problème est le suivant, il ne vous a pas échappé, parce qu'on en parle, qu'il y a tout plein de loups partout en France, mais notamment, évidemment, dans les Alpes du Sud, et ils font des gros dégâts. Il n'est pas possible aujourd'hui d'élever des agneaux de Sisteron. Il y a l'appellation contrôlée agneau de Sisteron, c'est une des richesses importantes de la région, une des seules à dire vrai, sans se protéger contre les loups. Et la meilleure protection sont des bergers pyrénéens, ce sont les patous. Ce sont des grosses boules de poils, plutôt sympas, sauf que ce sont d'excellents professionnels. On leur a dit qu'ils devaient défendre leurs troupeaux, et ils le font. Et ils le font...
De quelle manière ?
Ils le font sans aucune compromission, dans l'incapacité totale où ils se trouvent de faire la différence entre un loup et un marcheur.
Ah,
alors,
c'est là que ça se
quand le marcheur arrive et qu'il voit un troupeau, il y a des patous qui lui interdisent de s'avancer. Il doit contourner le troupeau, mais parfois, il est sur un petit chemin qui est à flanc d'une pente très très raide, et évidemment, il ne peut pas faire autrement que suivre le chemin. Ça m'est arrivé. Et là, il y avait un troupeau qui était aussi bien en amont qu'en aval, et évidemment, je voulais passer au milieu du troupeau, il y a un patou qui s'est avancé. Alors moi, j'ai commencé de parlementer. Je lui ai dit, écoute, on va s'arranger parce que toi et moi, on est dans le même camp. Moi, quand j'étais petit garçon et qu'on me racontait l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, eh ben, je vais te dire, j'étais pour la chèvre et contre le loup. Et aujourd'hui, je serais plutôt pour les brebis et plutôt contre le loup. Exactement
passer,
comme
là,
toi. Voilà. Alors, mais vous voyez bien, j'ai du bagou.
Bah,
on m'a toujours dit. Et j'étais assez confiant. Eh ben, rien du tout. Un échec total, complet. Je me suis avancé.
Le patou ne parle pas le
canard. Je me suis avancé, il m'a montré une dentition superbe. Et alors là, j'ai remplacé le titre du film « Danse avec les loups » par une nouvelle version « Danse avec les patous ». J'ai mis une heure et demie, vous voyez, il y a le patou qui est devant moi, là, je ne peux pas passer. Il y a le troupeau de part et d'autre, il faut que je passe, il y a l'orage qui me chasse. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à tourner en descendant un peu dans la pente, de 10 cm en 10 cm, toujours en le fixant du regard. Et lui pivotait sur lui-même. Et au bout d'une heure à une heure et demie, j'ai été de l'autre côté. Et à reculons, je me suis éloigné de lui. Il a vu que le danger, évidemment, s'écartait, s'éloignait. Apaisé, il est allé se recoucher. Voilà, et évidemment, je me suis tapé l'orage de ce fait-là.
Quelle histoire.
Voilà, alors.
Juste sur le fond, parce que ce voyage, ouais. il est plein d'anecdotes, d'aventures, mais c'est aussi une immersion dans les débats qui agitent la France. Sur cette question du loup, il y avait encore dans le journal Aujourd'hui en France ce matin l'histoire d'un gamin de 16 ans qui a dû tirer en l'air pour faire fuir une meute de loups.
Alors c'est ça, il faudrait voir si c'est vrai. Hein.
Oui.
Honnêtement,
il y a des récits
loups,
un peu exagérés.
Voilà. Mais vous êtes autant les patous sont dangereux.
Oui.
Autant les patous sont dangereux pour les hommes, autant les loups, ils l'ont été dans l'histoire.
D'accord. Oui. Donc vous ne prenez pas trop parti dans cette histoire-là.
C'est-à-dire que je considère qu'il y a tout de même, en réalité, une très grande difficulté à l'activité pastorale telle qu'elle s'était établie dans notre pays et l'ensauvagement nouveau de la montagne par les loups. Vous savez, ils ont conquis la France quand même. Il y en a même dans mes territoires de l'Aube, il y en a qui ont attaqué des vaches, il y en a même qui ont attaqué des chevaux. Ce sont des animaux extrêmement intelligent. Peut-être qu'avant on avait appris à s'en protéger, ça n'est plus vrai. Et moi je considère que il faudrait trouver un système qui permette une vraie coexistence entre, dans des zones un peu éloignées, peut-être, pourquoi pas, la présence des loups, ce sont des beaux animaux. Et puis, la possibilité pour les bergers de travailler. Parce que vous savez, dans ces territoires très pauvres, c'est une des seules activités possibles. Et elle peut être rentable. On peut gagner sa vie bien en élevant de l'agneau de Sisteron, en élevant des brebis. Sauf que j'en ai vu qui persistaient, j'ai vu des bergers qui abandonnaient. Parce que c'est dur, hein, quand vous avez 100 brebis, 50 ont été tués, 30 ont été tués, et les autres sont tellement blessés, déchiquetés, qu'il faut les euthanasier. Ça dégoûte un peu du métier quand même. Hein.
Axel Kahn, vous avez traversé la France à deux reprises. D'abord d'est en ouest, et au printemps dernier, c'est d'ouest en est. Vous avez traversé les territoires français alors que le débat sur les régions faisait rage. Est-ce que...
On en a parlé partout.
On vous a parlé
de la réforme, des régions.
La réforme des régions.
Alors rapidement, le coin où ça passe le moins bien.
En gros, très très rapidement, excusez-moi, en gros, là où je suis passé, là où ça passe le moins bien, c'est la Bretagne. La Bretagne aurait voulu Nantes et la Loire-Atlantique, qui incontestablement pour le Nord est bretonne. Mais autrement, on va dire qu'ils ont évité le pire. Quoi ? Et pourquoi ? Les limousins de la Creuse avaient très peur d'être avec les Auvergnats, parce que les Auvergnats sont aussi pauvres qu'eux. Être avec les Aquitains, ça les soulage plutôt. Les Auvergnats sont des gens pratiques. Il préfère avec, être avec Rhône-Alpes parce que la mariée a une dot importante, alors que les Limousins, ça n'aurait pas été le cas.
Bon, on ne leur laisse pas le choix, c'est ça le problème.
Ils n'ont pas le choix. Enfin, si, parce qu'on avait parlé autre chose. On avait parlé d'une réunion entre, à un moment donné, le Limousin et la région centre, ou bien entre le Limousin et l'Auvergne. Et tout le monde était horrifié. Donc, Auvergne avec Rhône-Alpes, Limousin avec Aquitaine, on va dire que ça passe moins mal que le reste. Les Bretons sont furieux. Là où ça pose vraiment problème, mais je suis pas passé par ces régions, c'est en réalité Picardie et Nord-Pas-de-Calais, d'une part, et d'autre part, c'est Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Ça, c'est un énorme problème.
Merci beaucoup, Axel Kahn. C'était passionnant. Quel bon moment. Entre deux mers, voyage au bout de soi, votre livre est publié chez Stock et évidemment, on le conseille.
Vous écoutez RTL.